Bonsoir. Gestion des entreprises publiques congolaises. Un audit est en cours dans trois entreprises, à savoir la congolaise des hydrocarbures Cohydro, les lignes aériennes congolaises LAC et de la régie des voies aériennes RVA. Selon la ministre du portefeuille, le gouvernement a constaté des défaillances dans la gestion de ces entreprises. Comment analyser cette décision du gouvernement? Pour en parler, nous recevons Lems Kamoigna, économiste et coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines Promine, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Monsieur Kamoigna, bonsoir. Voilà, Lajos Bidiou, député honoraire, ancien membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale de la législature passée. Il est président fédéral du MLC Bas-Congo. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Professeur André Moloto, ancien président délégué général de la Banque de Crédit Agricole et analyste économique. Professeur Moloto, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir monsieur. Bonsoir tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci chers auditeurs et internautes pour vos réactions. Célestin Poutou d'Issiron en province orientale. Diligenter l'audit pour poser des bonnes bases, c'est une bonne chose. La faillite de ces entreprises ne provient pas seulement de la mauvaise gestion, mais de la mauvaise gouvernance sur tous les plans. Ernest Mpararo de la Ligue congolaise pour la lutte contre la corruption, l'ICOCO. La LICOCO salue l'initiative du gouvernement d'auditer les trois entreprises. Toutefois, nous demandons que ces audits se fassent dans toutes les entreprises de l'État. Il faut aussi auditer l'exécution du budget 2011 et la CENI. Kevin Kouté, Samuel Kachak assure la réalisation. Jean-Claude Nsiala est à la technique. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un audit est en cours dans trois entreprises publiques depuis cette semaine. Il s'agit de la Congolaise des hydrocarbures, des lignes aériennes congolaises et de la régie des voies aériennes. C'est suite à la signature le week-end dernier des contrats entre le ministre du portefeuille, son collègue des transports et celui en charge des finances. Selon la ministre du portefeuille, le gouvernement a constaté des défaillances dans la gestion de ces entreprises. Madame Louise Munga, vous êtes ministre du portefeuille. Sous quel signe placez-vous ces audits?
Pour les trois entreprises que vous venez de citer, là ce sont des audits spécifiques liés à des problèmes spécifiques que j'ai à constater en tant que représentant de l'État dans la gestion de ces entreprises. Mais de façon générale, nous sommes en train d'élaborer les termes de référence spécifiques à chaque entreprise pour qu'on puisse procéder à l'audit de gestion qui englobe en fait la gestion globale de ces entreprises du portefeuille. À partir du moment qu'on constate qu'il y a eu un dérapage, soit dans la passation de marché, soit dans l'affectation des fonds, je ne peux pas les confirmer, mais c'est l'audit qui nous permettra de déterminer les responsabilités des uns et des autres sur nos craintes.
Une entreprise comme LAC qui est quasiment par terre, qu'est-ce qu'on chercherait dans cette entreprise?
LAC est par terre, mais vous n'ignorez pas que LAC est propriétaire de beaucoup de biens, principalement dans la ville de Kinshasa. LAC dispose au moins d'une vingtaine de biens mobiliers dans cette ville. Et LAC a réalisé la vente du terrain que vous connaissez tous sur le boulevard du 30 juin. L'État propriétaire a le droit de savoir comment le marché a été passé, quelles sont les autorisations, les pouvoirs qui ont permis aux décideurs de réaliser la vente, quel est le prix qui a été perçu et quelle est l'utilisation qu'on a fait de ces fonds.
Les propos de la ministre du portefeuille Louise Munga ont été recueillis par Agathe Mpona Elema. Lems Kamoigna, je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines Promine, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Il faut préciser que vous participez à cette émission comme expert. Lems Kamoigna, comment vous avez accueilli cette décision du gouvernement?
Oui, ce qui est vrai, c'est que dans la gestion de cette entreprise, qu'elle soit publique ou privée, l'audit est une opération qui est régulière, qui est normale. Mais en dehors de ce qu'on fait régulièrement à la fin de chaque exercice comme audit, il est toujours possible que les propriétaires ou les gestionnaires se disent qu'à certains moments, il faudrait qu'on puisse diligenter des contrôles inopinés ou des audits ponctuels, comme c'est le cas actuellement. Et je pense que c'est dans l'intérêt du gouvernement, après avoir constaté certains problèmes ou certains dérapages, que le gouvernement décide de diligenter cela, je crois que c'est ça revient dans les droits du gouvernement en tant que propre société, et moi je ne pense pas que ça pose un quelconque problème. C'est une bonne chose et il faudrait qu'on s'habitue à cet exercice.
Alors, beaucoup d'auditeurs ont posé plusieurs questions, des précisions que je vais vous adresser d'un moment à l'autre, Lems Kamonia, mais vous avez suivi dans l'interview que la ministre du Portefeuille a accordée à notre collègue Agathe Mpona. Elle a posé la question de savoir, par exemple, LAC, une société qui est en faillite, qu'est-ce qu'on chercherait là? C'est maintenant seulement qu'on s'intéresse à LAC parce qu'il y a eu un terrain vendu?
Oui, la réalité c'est quoi? C'est-à-dire, une entreprise, elle a un patrimoine. Ce patrimoine n'est pas seulement constitué de l'argent ou des espèces, ce patrimoine est composé des biens immobiliers, des biens mobiliers, et une entreprise peut effectuer plusieurs types d'opérations. Même si l'entreprise est en faillite, tant qu'elle n'a pas été liquidée, elle demeure encore une propriété de l'État. Elle a encore sous sa gestion un certain nombre de biens qui peuvent être mobiliers ou immobiliers. Et tant que l'État n'a pas pris une décision quelconque pour désaffecter ou liquider cette entreprise, elle continue encore à être considérée comme une entreprise qui est encore en activité, et à tout moment, l'État peut diligenter un audit. Comme c'est le cas actuellement, on pense qu'il y a eu des transactions, des cessions d'actifs, donc des cessions de terrains ou de certains biens immobiliers qui sont déroulés. L'État peut savoir comment un patrimoine qui lui appartenait a été cédé, il a été cédé dans quelles conditions, sous quelle forme, comment le marché a été réalisé. Je crois que c'est dans les droits de l'État de pouvoir passer à un tel audit. Donc, une entreprise en faillite, la faillite, elle est consommée lorsque l'entreprise fait l'objet d'une liquidation. Mais tant qu'entreprise n'a pas été liquidée, elle demeure encore une entreprise en activité et on peut toujours y diligenter un audit.
Alors, prenons cette réaction pour vous, Lems Kamonia, qui nous vient de Vienne, en Autriche.
Franck Mbeni, de Vienne, en Autriche. Chez nous, en République démocratique du Congo, quand bien même il y a ces audits, on ne sent pas qu'on est en train d'évoluer. Car même s'il y a des déficits palpables et graves prouvés et lesquels devaient être sanctionnés, le même mandataire se retrouve encore gratifié d'une autre manière, soit ils deviennent des ministres, soit on les retrouve dans d'autres sphères du pouvoir. Et aussi, avec un Parlement qui ne sait pas parfois s'assumer à cause de certaines interférences politiciennes, c'est l'État congolais qui sort souvent perdant et c'est toujours une certaine minorité d'individus qui ne cesse de s'enrichir sur le dos de l'État. Pour moi, c'est un paradoxe qui ne fait qu'anesthésier le décollage économique intégral de la République tout entière. Depuis 2006, on ne va pas quand même nous présenter plus de 10 mandataires sanctionnés systématiquement à l'issue de ces audits au cas où leur gestion, leur médiocrité est prouvée.
Réaction Lems Kamonia.
Il est en partie fondé. C'est vrai que nous avons tous regretté le fait que la plupart de notre public avait tendance à être plus politisé et que les sanctions n'ont pas toujours suivi ou parfois ceux qui étaient les mandataires qui étaient en place. Il s'adonnait à des actes avec beaucoup de souplesse, ce qu'on appelle les délits d'initié, et que d'une manière ou d'une autre, on n'a pas retenu des faits graves à leur encontre, ou quand c'était avéré, ils pouvaient toujours se représenter politiquement d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce sont des choses qui doivent prendre fin, et c'est même la volonté de l'État au moment où elle a procédé à la transformation des entreprises pour qu'elles deviennent commerciales, c'est pour que les gestionnaires répondent de ces actes. Parce qu'actuellement, dès lors que l'entreprise devient commerciale, les directeurs généraux l'administrateur général, il a sur lui des responsabilités personnelles dans la gestion. Si sa responsabilité est mise en cause, ce n'est plus l'affaire de tout un comité qui gérait comme c'était par le passé, c'est sa responsabilité à lui et il peut même être poursuivi pénalement. Maintenant, il est question qu'on applique cela et qu'on mette ça en impunité pour que cette réforme qui a été envisagée déjà au niveau de la transformation ne puisse pas rester à l'être morte ou seulement se limiter sous la forme et les documents juridiques qui ont été adoptés, mais qu'elle soit suivie par des faits concrets et qu'on sente effectivement que l'État change et l'État punit les mandataires qui sont indélicats ou qui gèrent mal les entreprises qui appartiennent au portefeuille public.
Lems Kamonia, est-il si facile, peut-être comme vous le dites, de se départir des interférences politiques dans le contexte congolais?
Moi, je pense que c'est ça la grande réforme qui doit être menée. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce que moi je considère comme les trois zones de risque dans la gestion des entreprises du portefeuille. La première zone, c'est celle-là relative à la passation des marchés. Quand vous passez beaucoup de marchés de gré à gré, sans pour autant respecter la loi sur la passation des marchés publics qui a été adoptée en 2010, Là, les gré à gré amènent souvent les pots de vin et ça, c'est toujours difficile à prouver par la suite et ça pose des problèmes. Si l'État, de manière préventive, il insiste pour que ces procédures de la loi relative au marché public soient appliquées, je crois qu'on va éviter ces dérapages. Deuxièmement, c'est au niveau de la gestion des finances. La plupart des entreprises publiques n'ont pas les états financiers qui sont à jour et pour les autorités, ça pose toujours des problèmes. À la place, peut-être l'État peut exiger qu'il y ait un contrôle, un reporting financier régulier avec des audits qui sont inopinés. Cela peut faire peur aux mandataires pour qu'ils évitent de plonger dans toute cette affaire de mauvaise gestion. Et troisièmement, c'est l'aliénation du patrimoine public. Actuellement, on constate que la plupart des mandataires publics, ils aliènent purement et simplement les patrimoines de l'État, les biens, les actifs, sans pour autant qu'il y ait des craintes, et souvent ils le font parfois avec la couverture de certains ministres. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait vraiment qu'on insiste plus, qu'il y ait plus de discipline, qu'il y ait plus un contrôle au niveau de ces ministres qui parfois sont derrière ou laissent certains mandataires publics poser de tels actes qui sont considérés comme indélicats. Et on espère qu'avec les codes de bonne conduite qu'a signé les membres du gouvernement, les contrôles seront effectivement fixes et qu'on puisse aussi actionner tous les mécanismes. Nous avons l'Inspection générale des finances qui peut faire ces contrôles. Nous avons la Cour des comptes qui peut faire ces contrôles. Pourquoi tous ces organes existent? Ils doivent exister pour qu'on arrive à remettre la gestion au pas et éviter que la situation se dégrade davantage pour constater les dégâts par la suite.
Alors avant que je ne donne la parole au professeur André Moloto, l'EMS Kamonya, il y a Joël Boussibo qui nous écrit de Béni au Nord Kivu qui dit « Je salue cette démarche de notre gouvernement et sa volonté de remettre à l'heure la pendule de la RDC restée longtemps dormante. Cependant, je crains que cela ne soit sans effet, à l'instar d'autres audits initiés sur la RVA au sujet des milliers de dollars dépensés frauduleusement pour la seule réhabilitation du salon d'honneur de notre aéroport de Njili, plus de 3 millions de dollars, écrit-il. Le GoPass, payé régulièrement et obligatoirement par tout passager, qui reste sans impact sur l'aménagement même des conditions de voyage. Vous vous souvenez, l'EMS Kamonya, en son temps, on a passé beaucoup d'émissions ici de débat avec sur la RVA, avec l'ancien ADG qui est parti. Finalement, fallait-il commencer par ces sociétés-là? Est-ce que ce sont les bonnes entreprises par lesquelles il fallait commencer?
Moi, je me dis, comme la ministre du portefeuille l'a dit, peut-être là, il y a eu des faits graves qui ont alerté les gouvernements pour dire on commence par ces sociétés-là, mais la situation semble être une situation générale, d'ensemble. Et je crois que, de manière générale, il faudrait que partout qu'on procède à ces audits, c'est vrai que là, ce sont des cas qui ont été constatés, mais là où on n'a pas constaté directement, il n'est pas dit qu'il n'y a pas de problème. C'est pourquoi moi je pense, à mon sens, qu'il faudrait généraliser ça à l'ensemble des entreprises et que ces audits, lorsqu'ils sont menés, il faudrait vraiment qu'on aboutisse à établir des responsabilités, à sanctionner les gens. S'il faudrait qu'on puisse les traduire en justice, qu'on les fasse, qu'on regarde effectivement que ces gens sont traduits en justice. Et même à terme qu'ils sont remplacés, que le gouvernement s'engage à faire en sorte que la gestion soit régulièrement suivie de manière régulière et qu'ils se fassent de manière aussi régulière.
Merci l'EMS Kamonya. La réalisation me signale que nous avons en ligne, l'Ajos Bidiou est en ligne. Bonsoir Monsieur Bidiou. Monsieur Bidiou, vous nous suivez?
Je vous suis, bonsoir.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député honoraire et ancien membre de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale de la législature passée. Vous êtes également président fédéral du UMLC Bas-Congo. Vous avez suivi cette décision du gouvernement. Comment vous l'analysez?
Écoutez, merci. Mon analyse est simple. Je crois que c'est dommage qu'on ait retenu simplement ces quelques entreprises. Parce que la situation telle qu'évoquée est générale. Toutes les entreprises publiques sont gérées de la manière que l'on sait. C'est-à-dire qu'aucune entreprise ne peut prétendre être bien gérée. Comme vous le savez, en 2009 déjà, nous avions voulu faire le contrôle de la gestion de nos entreprises publiques. Parce qu'en réalité, ces entreprises n'apportent presque rien dans les caisses de l'État. Donc, pas de dividendes. L'État ne reçoit rien. L'État propriétaire ne reçoit absolument rien. C'est comme si ce sont des entreprises qui ont été abandonnées, qui ont été laissées pour compte. Donc, je crois que si la ministre le fait de manière sélective, ça serait regrettable. Nous aimerions que le gouvernement le fasse de façon collective pour que réellement le contribuable congolais qui a donné son argent pour que cette entreprise soit créée puisse se rendre compte que nos entreprises qu'on appelle les canards boiteux, qu'elles peuvent être redressées et qu'elles participent aussi à l'effort que tout le monde donne pour le redressement de la République.
Alors, je reprends un extrait de la réaction de Franck qui nous a écrit de Vienne, qu'on a suivi tout à l'heure. Il dit, avec un Parlement qui ne sait pas parfois s'assumer à cause des interférences politiciennes, c'est l'État congolais qui sort souvent perdant et une minorité d'individus s'enrichit. Vous-même, vous avez été, vous êtes député honoraire et on a épinglé tout à l'heure les interférences politiques avec l'EMSCA Moigna, visiblement... le Parlement ne semble pas être suffisamment fort pour contrer ces actions politiciennes.
Oui, effectivement, ils ont raison. C'est pas que le Parlement ne semble pas assez fort, mais le problème c'est que il y a le clientélisme, il y a le chantage. Il y a la majorité qui est au pouvoir. Vous vous souvenez que à chaque fois qu'on voulait interpeller un ministre, à chaque fois qu'on voulait interpeller un mandataire public, la majorité a toujours tendance de croire ou de faire croire à l'opinion qu'on en veut à tel ministre ou à tel autre ministre, qu'on en veut à tel mandataire public ou à tel autre mandataire public. Alors, généralement, quel est le discours? On dit, faites attention parce que si vous le faites, nous risquons de faire le jet de l'opposition, la solidarité gouvernementale va se lézarder, le gouvernement va tomber, l'opposition va chanter victoire, alors que le problème n'est pas une victoire de l'opposition. Le vrai problème, c'est la victoire du peuple que l'on recherche. Lorsqu'on voit un ministre, mais lorsqu'on fait un contrôle parlementaire, ce n'est pas nécessairement pour sanctionner, pour faire partir un ministre, mais c'est pour redresser, c'est pour nous donner de nouvelles orientations, c'est pour faire des recommandations au gouvernement ou aux entreprises publiques pour qu'elles se redressent. Mais bon, hélas, je suis au regret de constater que la majorité qui est au pouvoir depuis 2006 voit toujours les choses sous un autre angle.
Deux auditeurs pour vous, la Josmi Diou, Mathieu Kasirika Ndani Louis, un auditeur encore de la diversion qui ne connaît pas l'histoire de la gestion de la RVA. Nous sommes gérés par un système qui veut seulement s'enrichir. Même si vous amenez les anges, cela ne changera rien tant que nous restons dans le système mis en place dans ce pays. Pépé Lissfungi de Kisangani en province orientale, si aujourd'hui ces trois entreprises sont dans le chaos, c'est le gouvernement congolais qui en est le responsable numéro un. Ils ont tué ces entreprises pour faire fonctionner leurs agences privées. D'après ces auditeurs, la Josmi Diou, sommes-nous dans un contexte d'un État prédateur?
Écoutez, plus qu'un État prédateur, je pense que les fois passées, j'ai clairement dit que nous sommes dans un pays où la mafia a pris position dans les structures de l'État, et comme elle a pris position dans les structures de l'État, elle a neutralisé ces structures. Les hommes qui sont censés défendre les intérêts de l'État dans ces différentes structures, que ce soit dans les entreprises publiques comme dans l'organisation publique, ils sont plutôt maintenant au service de la mafia. Regardez un peu tout cet argent qu'on a dépensé pour construire le salon présidentiel au niveau de Njili. Mais quand on vous donne le montant qui a été dépensé, ça vous fait tomber à la renverse. Donc, bon, je ne suis pas peut-être tout à fait pessimiste comme mon frère. C'est pas simplement un problème d'ange, non. C'est un problème de responsabilité, c'est un problème de système. Le système qui a été mis en place, c'est un système prédateur, c'est vrai, mais un système aussi qui s'est mis en collusion avec la mafia. Voilà pourquoi on n'arrive pas à décoller. Voilà pourquoi on n'arrive pas à sanctionner. Il n'y a pas de sanctions. C'est impossible de sanctionner parce que tout le monde est concerné par ce qui se passe. Tout le monde est concerné dans les détournements, dans la malversation financière au niveau de nos entreprises publiques.
Un autre auditeur, Tony Bo Lavi Mosipoli, j'espère que cela n'est pas seulement dans le but d'autre-toi que je m'y mette, car le nouveau gouvernement voudrait aussi, à mon avis, avoir une mainmise sur ces entreprises, car nul n'ignore que dans le trio des ministères qui vont auditer ces entreprises, figurait hier le ministre des Finances, premier ministre actuel, alors qu'attendre de cet audit, sinon perpétuer l'impunité qui règne dans ces entreprises du Congo, la Josmi Diou.
Écoutez, malheureusement, on n'a pas de choix, on n'a pas d'autre chose. C'est autre que je me mets, c'est rien à faire. Le ministre du portefeuille qui est arrivé, quelle que soit sa bonne foi, il voudrait mieux y mettre les gens sous lesquels il peut, elle doit avoir contrôle. Ça, c'est un. De deux, elle-même doit, je suis convaincu, parce que c'est ça aussi le clientélisme politique, elle doit faire l'objet de pressions politiques de sa famille politique, je dis même de son entourage. Donc, bon, tant qu'on ne sanctionne pas ceux qui vont partir, parce que peut-être qu'on va faire partir des gens, mais les faire partir, ça c'est une sanction purement administrative. Mais ça s'arrête là. Et vous verrez que les mêmes personnes d'ailleurs demain vont revenir sous une autre forme. Donc, tant qu'on n'a pas sanctionné, tant que la sanction ne prend pas encore place dans notre système, ben, malheureusement, les choses seront encore les mêmes. Hein, nous sanctionnons, mais principalement, c'est un discours que nous tenons, mais dans les actes, il n'y a rien qui se fait.
Professeur André Moloto, ancien président délégué général de la Banque de Crédit Agricole, également analyste économique. Professeur, comment vous abordez cette question?
Écoutez, bonsoir. Moi, je place le problème là qui nous est posé à celui des animateurs des entreprises publiques. Rappelez-vous, ces gens ont été choisis juste après les élections de 2006. Comme les auditeurs l'ont dit et que un des intervenants l'a dit tout à l'heure, le choix de ces animateurs ont été faits sur la base du clientélisme. Je ne peux que citer un exemple que je connais bien. Si vous prenez par exemple la liste de ceux qui ont été, la liste des mandataires publics qui ont été retenus après le test organisé par Copyright, vous verrez que parmi les ressortissants de l'Équateur, n'y figurent que ceux qui faisaient partie de la majorité présidentielle. Il y en a même parmi les mandataires retenus qui n'ont même pas participé au test. C'était la loi du vainqueur. Et l'actuel ministre du portefeuille le sait, parce que elle a été à ce moment-là consultant au Copyright, et elle était parmi les examinateurs en oral de ceux qui ont réussi le test écrit. Donc elle sait qui ont réussi à ce test et qui n'ont pas réussi à ce test. Donc j'aimerais bien insister ici sur le fait que les auditeurs ont raison en disant que ça n'a été que du clientélisme. Eh bien, maintenant, moi, le deuxième problème que je me pose en tant qu'ancien mandataire public, comment le ministre a été saisi? A-t-il été saisi par le rapport du conseil d'administration ou par le rapport des comités de gestion? Et c'est ce qui est à craindre, ce qu'il faut éviter, parce que je connais bien Madame le ministre de portefeuille, c'est une dame très posée, par la délation, comme l'a dit l'intervenant de tout à l'heure, par la délation, les procès, les pressions politiques. Ça, c'est vraiment une crainte. Donc, il y a même un autre auditeur qui a dit, ou un intervenant a dit, c'est un problème de gouvernance de nos entreprises publiques qui se pose, qui s'est toujours posé.
Quand on parle de passation de marché, il y a des procédures de passation de marché. Est-ce que les dirigeants, par exemple, de l'ACT, sont au fait de ces procédures? On leur a donné ces procédures de passation des marchés. Ça existe ou pas? La gouvernance, on ne voit plus la signature des contrats de performance, comme à l'époque on voyait le ministre de portefeuille signer avec la Régie des eaux, la SNEL, les entreprises publiques, les contrats de performance. Madame le ministre a dit que bon, il y aura des termes de référence, de l'audit, ben, ça va être basé sur quoi? Sur les contrats de performance, sur les procédures de passation de marché, sur, je ne sais pas, sur la réalisation du budget prévisionnel des entreprises. Tout ça, ce n'est pas clair.
Professeur.
Tout ça, en tout cas, ce n'est pas clair.
Professeur Moloto.
C'est ça que j'aimerais utiliser ma première intervention et je pourrais poursuivre.
Professeur Moloto, vous avez fait allusion au COPIREP, aux mandataires, à la manière dont ils ont été recrutés. Faudrait-il remettre en cause, professeur, par ces audits, remettre en cause le processus même de la réforme des entreprises publiques?
Mais c'est ce qu'il faut craindre. Je dois tout simplement rappeler ici que les économistes admettent que ce sont les institutions et les structures économiques et sociales qui assurent le fonctionnement de l'économie. C'est ainsi que dans le cadre de son programme économique appuyé par les institutions de Bretton Woods, le gouvernement exécute un programme dit développement du secteur public à travers le COPIREP, l'agence qui est l'agence d'exécution de ce programme. Hein, l'idéologie de ces institutions étant les néolibéralismes, elles croient dur comme fer que le secteur privé est plus rationnel que dans la gestion des entreprises que la gestion étatique. En conséquence, c'est ce secteur privé qui doit être à la base du dynamisme de l'économie. Ben, COPIREP, l'aboutissement, c'est la privatisation. Nous allons tout simplement tout droit. Je ne mets pas en cause. Le COPIREP a organisé un test avec l'appui de la Banque mondiale pour recruter les mandataires. Ce n'est pas moi qui le dis. Les mandataires ont été choisis sur base de l'interférence politique. Tout le monde l'admet à présent. Parce que, monsieur, on dit, on peut mentir quelqu'un tout le temps, on peut mentir un certain nombre de gens, tout le monde pendant un certain temps, mais on ne peut pas mentir tout le monde pendant tout le temps. La vérité finit par se savoir. Et ça se sait maintenant à travers ce que nous abordons, les thèmes que nous abordons aujourd'hui.
Professeur Moloto.
Oui.
Souffrez que je vous arrête un instant, le temps de redonner la parole à Lems Kamoigna. Lems Kamoigna, faut-il, comme je vous reprends pratiquement la même question qu'au professeur Moloto, faut-il remettre en cause le processus de la réforme des entreprises publiques?
Non, moi je pense que tous les problèmes qui se posent actuellement, c'est parce que ce processus de réforme n'a pas été suffisamment appuyé lors du mandat passé. Si les gouvernements au cours de la première législature avaient pris les problèmes de la réforme à bras le corps, si on avait réalisé les réformes en profondeur qui avaient été réalisées par les COPIREP, je crois qu'à ce jour, il y aurait quand même beaucoup d'avancées, beaucoup d'améliorations. Et j'aimerais peut-être ici, par rapport à ce que dit le professeur Moloto, dire que pour COPIREP, ce n'était pas seulement question de privatiser. Le problème, c'était de voir quelles seraient les solutions idéales pour permettre à nos entreprises qui ont toujours été, à leur création, considérées comme les vecteurs importants de l'économie, mais qui étaient en faillite, et à ce moment-là, ils commençaient maintenant à s'ériger comme des pesanteurs qui contrecarrent tous les élans positifs vers la croissance et le développement. Comment on pouvait les réformer de façon à donner encore un ballon d'oxygène à l'économie? On était en train d'envisager plusieurs solutions. Mais malheureusement, ces programmes, je vous dis, la plupart des stratégies lancées par les coopératives n'ont pas été mises en œuvre. Tout ce qui a été réalisé, c'est une simple transformation juridique. Mais dans la profondeur cette réforme n'a pas été appuyée. Si actuellement, je crois qu'il n'est jamais tard pour bien faire, si le gouvernement actuel reprend tout ce qui a été proposé comme stratégie pour ces entreprises, qui n'est pas forcément de la privatisation, je pense qu'il est possible qu'à ce jour, qu'on essaie un peu de voir plus clair pour que chaque entreprise réponde aux objectifs pour lesquels elle a été créée.
L'EMS Kamoania, le processus n'a pas été suffisamment appuyé. Pourtant, on sait que ça a été annoncé comme d'habitude en grande pompe. L'État s'est-il trompé lui-même?
Non, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Copyright est un organe technique. C'est un organe technique. Il conçoit des stratégies, il propose. Mais il appartient au gouvernement, au terme de la loi sur les désengagements de l'État sur la transformation, c'est au gouvernement d'adopter ces stratégies, soit de les corriger et de les mettre en œuvre. À ce jour, je crois que la plupart des stratégies qui ont été déposées au gouvernement, je ne me rappelle pas, sauf un ou deux cas, quelles sont les stratégies qui ont été discutées et approuvées par les gouvernements. C'est à ce niveau-là, je pense qu'il faudrait maintenant revenir, parce que c'est comme si vous avez annoncé un processus en grande pompe, il y a un travail qui a été fait, mais on n'est pas allé jusqu'au fond des choses. Si actuellement on s'est dit, qu'est-ce que nous voulons que nos entreprises deviennent? Est-ce que doit-on considérer la RVA pour confier seulement des gens? Ce n'est pas la solution. Même si on prend Corito, ce n'est pas la solution. Si la solution n'est pas dans les individus, quelles sont les réformes qu'il faut mener en profondeur? On dit de là qu'on a vendu des parcelles ou des terrains. Ce n'est pas ça l'objet social de l'ACC. Est-ce qu'on a donné suffisamment de moyens à l'entreprise de fonctionner? Je crois que ce sont là les questions de fond qui méritent d'être discutées sans passion, cette fois au niveau du gouvernement, et qu'on lève de vraies options pour dire qu'est-ce que nous voulons de nos entreprises. Voulons-nous qu'elles répondent aux objectifs pour lesquels elles ont été créées, ou bien on va se contenter de gérer les petits existants qui existent pour les entreprises qui, pour la plupart, sont en train de friser la faillite? Et je crois que ça, ce sont des questions qui méritent que le gouvernement s'y penche avec beaucoup d'ardeur.
Deux auditeurs pour vous, l'EMS Kamoania, Mouindo Luc Kambéré de Benio Nord Kivu. Nous en avons marre des audits qui ne donnent pas de résultats disciplinaires. Le pays est mal géré, cela dure depuis des décennies. Depuis 2006, on n'a jamais vu ni ministre ni officier militaire être concerné par ces audits. Olivier Kabata, comment peut-on auditer des entreprises qui sont financées par ces mêmes personnes qui demandent cet audit? La cause de la défaillance de ces entreprises est bien connue, c'est l'État lui-même. Comment veut-il être à la fois jugé parti? C'est une mascarade. Qui sont ces auditeurs? Que l'État fasse preuve de transparence et ôte sa main invisible qui pille les recettes. Le Premier ministre Matata connaît bien la cause. Combien d'audits doit-on faire? L'EMS Kamoania, l'État congolais accepterait-il de se faire harakiri, comme on dit?
Oui, moi je pense que quand nous disons l'État, nous parlons de manière globale, mais je crois que la composante de l'État qui est concernée au premier point, c'est le gouvernement. Et je crois que le Premier ministre actuel, dans son programme, il a annoncé qu'il y aura des réformes profondes, qu'il aimerait voir les choses changer. Et je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire, comme je l'ai dit tantôt. Si on prend la décision de dire, cette fois-ci, changeons un peu les choses par rapport à tout ce que nous avons vécu, tout ce qu'il y a comme inquiétude, tout ce qu'il y a comme pessimisme de la plupart des auditeurs, des autres intervenants, ça se justifie si nous jetons un regard rétrospectif sur ce qui s'est fait les années antérieures. Cette fois-ci, je crois que si on prend une décision, qu'on se dit cette fois-ci, on démarre sur du bon pied, qu'on constate qu'à l'issue de ces audits, que les responsabilités soient établies, et s'il y a des gens à sanctionner, qu'on les sanctionne, mais ça ne doit pas se limiter là. Moi, je l'ai dit. Aujourd'hui, ce que nous voulons, ce n'est pas voir que tel mandataire a été arrêté. Aujourd'hui, nous voulons avoir des entreprises qui sont performantes, qui rendent une meilleure qualité de service aux clients et qui répondent aux outils pour lesquels l'État les a créés. Et je crois que si ces questions sont discutées par le gouvernement, que ce gouvernement dit « je peux faire la différence », il faut le faire. Ce que nous évitons et ce que nous ne voulons pas, c'est revoir que ce gouvernement rentre encore dans les traces de ce qui s'est passé les années antérieures. Et je crois qu'ils ont toutes les cartes en leur main pour qu'ils arrivent à inverser un peu la tendance et qu'on voit une lueur d'espoir sur ces entreprises publiques.
Merci l'EMS Kamoania. L'Ajos Bidiou, nous prenons cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Ingénieur Valemanga Wilma, expert en transport et en sécurité routière et mandataire honoraire de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, à travers le monde, on cote des gestionnaires par des indices de performance. Nous voulons bien que toutes ces entreprises qui engagent ou encore emploient une bonne partie de notre population devront être gérées en très bon père de famille. C'est pourquoi le gouvernement doit nécessairement arriver à mettre des critères pour engager des personnes et des experts en ce qui concerne la gestion de ces entreprises publiques. Si ce sont des entreprises techniques, on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et là, nous croyons très bien avec cette nouvelle procédure que ça ne soit pas politisé. Nous pensons que nous atteindrons les objectifs de la modernité dans la gestion des entreprises publiques de notre pays.
Voilà, la Jospidiou Valmanga que vous venez de suivre propose de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme solution. Que faut-il de plus pour rendre les entreprises congolaises plus performantes d'après vous, la Jospidiou?
Écoutez, moi je pense que difficile en peu de temps. Mais notre problème aussi, c'est un problème, je crois, mental. Ceux qui gèrent les structures de l'État, ceux qui gèrent les entreprises publiques, sont en train de gérer les entreprises comme si ce sont des personnes qui pensent qu'il faudra apprendre, il faudra s'enrichir maintenant parce que on va partir demain. Donc on est en train de gérer le bien public comme si le Congo ne nous appartenait pas, comme si ce bien public ne nous appartenait pas à nous tous. Donc c'est un problème au niveau du mental. Il faut que déjà au niveau du mental, que nous puissions réfléchir autrement, que nous puissions raisonner autrement et comprendre que les biens publics qui leur ont été confiés appartiennent à tout le monde, non pas seulement et non pas simplement à leur famille politique ou à leur regroupement politique. Ça c'est un problème. Le deuxième problème, je pense que il faudrait que le gouvernement, qui a la charge de s'occuper de ces entreprises, de donner des orientations claires. Parce que si les orientations qui sont données aux mandataires ne sont pas claires, ben c'est normal, entre guillemets, c'est normal que nous puissions assister à ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il pense, ce qu'il fait de son côté. Parce que quand on parle de performance, je ne sais même pas si le mot performance est compris de la même manière par tout le monde. Parce que peut-être que performance pour certains, c'est le degré, le niveau d'enveloppe qu'il faudra retourner à ceux qui ont confié les responsabilités. Ou est-ce que performance c'est celle qui doit être comprise par tout le monde? C'est-à-dire que selon les réalisations, sur base d'un cahier de charges que le gouvernement doit définir à travers le portefeuille, à titre exemplatif. Moi, je pense que le troisième problème, le respect de nos textes. Parce qu'on risque de croire que la réforme des entreprises du portefeuille a été mal engagée, n'a pas été bien faite, alors que cette réforme a été bien faite. Mais simplement, les textes qui régissent la réforme sont-ils respectés et par le gouvernement et par les mandataires publics? La réponse est non. Il n'y a pas de respect des textes. On fait les choses n'importe comment. Et en fait, le politique qui prend le dessus sur l'ensemble des règles de gestion, sur l'ensemble des règles du management, c'est tel que ça existe à travers le monde.
Merci. Professeur André Moloto, je vais vous poser une question peut-être indiscrète, je ne sais pas si c'est le lieu. Vous avez été président délégué général de la Banque de Crédit Agricole, on sait comment elle a terminé cette banque. Avez-vous été audité en son temps?
Oh, mais moi j'étais audité à la fois par la Banque Centrale, par le portefeuille, et par un auditeur indépendant, Waterpress House. Donc là, c'était régulier, et sur base des rapports du comité de gestion, du conseil d'administration, on envoyait presque mensuellement un audit à la banque.
Alors, professeur, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Qu'est-ce qu'il faut pour rendre les entreprises congolaises plus performantes? La Jospidiou a insisté sur le respect des textes, également que l'État devrait se déterminer en donnant des orientations claires aux mandataires. Qu'est-ce que vous avez ajouté?
Moi, j'ai ajouté, je suis d'accord avec l'intervenant de l'autre intervenant qui dit que les réformes voulues par la Banque mondiale et qu'exécute l'agence d'exécution copyright ont été faites, mais il n'y a pas eu volonté politique. Et, mais c'est assez grave, il n'y a pas volonté politique. Par ailleurs, les performances améliorées, on n'invente pas la roue. Il faut qu'il y ait des contrats de performance approuvés et par l'État et auquel sera astreint le mandataire chargé de l'exécuter. C'est sur base de ça. Donc la gouvernance des entreprises publiques, on ne va pas inventer autre chose. Hein? Le feu professeur qui nous ont dit a imaginé ça dans son temps, le contrat de performance, et on jugeait les mandataires sur base de ces contrats de performance. Et chez moi, on ne mettait pas n'importe qui à la tête des entreprises publiques. N'importe qui n'est pas gestionnaire. Mais voilà un peu ce que je veux dire. Mais j'ai confiance, j'ai retenu quand même que madame la ministre du portefeuille, madame Munga, a noté, et doit le faire rapidement, qu'elle va auditer toutes les entreprises publiques.
Alors, professeur...
les problèmes spécifiques de la RVA, LAC, Cohydro, ces problèmes sont connus. Mais comme l'exige beaucoup d'auditeurs, qu'il y ait des sanctions. On peut reprocher beaucoup de choses à la Deuxième République, mais retenez quand même, il y a eu des généraux gestionnaires de l'AC, par exemple d'Air Zahir. Il a été en prison.
Merci.
Pour sa gestion.
Professeur.
Hein? Bon, un général,
professeur.
Deux étoiles, a été en prison.
Professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure, professeur, pour conclure. Lems Kamoignan, en guise de conclusion, peut-on espérer un avenir meilleur pour les entreprises congolaises?
Oui, moi je suis optimiste. J'ai dit, pour cet avenir meilleur, il faut vraiment rentrer dans le programme de réforme. C'est une réforme qui est une réforme majeure, qui doit avoir suffisamment d'engagement du gouvernement et être appuyée au sommet de l'État. Si on s'engage et qu'on arrive à réformer, à ce moment-là, on va dépasser le stade de remplacer seulement des hommes, mais on va voir en profondeur quels sont les vrais problèmes, quelles solutions y apporter, et mener des réformes courageuses qui bénéficient de la plus grande part du gouvernement en passant du Premier ministre. Je crois qu'avec ça, on peut espérer, dans 5-10 ans, voir des entreprises qui sont performantes et avoir quand même une meilleure perspective en ce qui les concerne et que c'est limité à des simples changements de mandataire.
Merci, Lems Kamoignan. La JOSPIDIU, vous également, vous espérez un avenir meilleur des entreprises congolaises?
Écoutez, on ne peut qu'espérer parce que c'est notre pays, ce sont nos entreprises. Mais bon, on accorde le bénéfice du doute à madame le ministre du portefeuille. Nous pensons que réellement elle va faire le travail que le peuple attend d'elle. Deuxièmement, je pense que il y a quand même aussi un problème du côté du président de la République parce qu'il est le garant de la Constitution. Je crois que la réforme des entreprises du portefeuille a été faite. Le problème qui est là, c'est qu'il faut simplement qu'on exécute cette réforme conformément aux textes qui ont été votés par le Parlement et promulgués par le chef de l'État.
Merci.
Nous avons pensé qu'il faut d'abord redresser les entreprises et voir si vraiment ça vaut la peine de présenter les entreprises. Donc nous avons un problème d'hommes, nous avons un problème de respect des textes.
Merci. Merci, la Josbidiou. La qualité de votre ligne tend à se dégrader. Professeur Moloto, conclusion.
Je crois que j'ai déjà conclu. J'aborde dans le même sens que les deux autres intervenants. Les réformes, oui, en profondeur, mais il faut que ces réformes pensées par Copyright, avec l'appui de la Banque mondiale, soient mises en œuvre par le gouvernement. Oui, il faut qu'il y ait un minimum de volonté politique.
Merci, professeur. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci au professeur André Moloto, à la Jos Bidiou, ainsi qu'à Lems Kamoignan. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.